Là, il s'agit de cycle 1, donc c'est un tout début de scolarisation. Les enfants arrivent à l'école déjà avec des bagages langagiers qui sont inégaux selon leur expérience du langage avant la scolarisation. En plus, ils sont en train de devenir des élèves, et donc ils ont encore la langue de l'école à apprendre. Et par langue de l'école, j'entends les codes de l'école, tout ce qu'on appelle le devenir élève, qui n'est pas la langue de la maison. Et là aussi, il y a des inégalités. Alors, voilà, pour être clair sur ce que j'appelle les petits parleurs, moi je me suis vraiment basée sur la typologie d'Agnès Florin qu'elle a établie. Elle a évalué la participation des élèves lors des moments de langage en classe et à partir de là, elle a classé les statuts langagiers des élèves en trois grandes catégories. Donc les petits parleurs qui sont typiquement les élèves qui ne participent pas, encore moins en grand groupe. Qu'on n'entend jamais, qui sont très discrets, les moyens parleurs qui se situent un petit peu entre deux eaux et les grands parleurs qui sont ceux sur lesquels un enseignant peut toujours compter en classe pour apporter une idée, participer, etc. Alors, attention, parce qu'il est rare qu'un élève change de statut langagier, c'est-à-dire que s'intéresser aux petits parleurs, pour moi, ça ne veut pas dire qu'on va espérer qu'un petit parleur devienne un grand parleur, ni même un moyen. D'ailleurs, les chances sont quand même qu'un petit parleur tout au long de sa scolarité, reste plutôt un petit parleur. Donc pour moi, s'intéresser aux petits parleurs, c'était d'abord chercher à les comprendre, c'est-à-dire savoir pourquoi ces élèves-là sont petits parleurs. Moi, j'ai choisi d'en observer trois en particulier, et je les avais identifiés comme petits parleurs par rapport à leur participation dans tous les moments de la classe. Et j'avais supposé, c'était un peu mon postulat de départ, qu'ils étaient petits parleurs chacun pour des raisons différentes. Donc il y avait une élève qui était très timide et très réservée, et enfin, dont j'ai pas entendu le son de la voix pendant plusieurs mois, était très impressionnée par les adultes. Un élève qui avait un comportement parfois agressif, voire violent avec les autres, et qui, quand on était en classe, ne s'intéressait pas aux activités, il semblait un peu se désintéresser de l'école de façon générale. Et une troisième élève nouvellement arrivée en France, donc elle, allophone. Alors, s'intéresser aux petits parleurs, voilà, pour moi, c'était aussi identifier leurs besoins et donc leur proposer des situations d'échange discursif dans lesquelles on sait qu'ils seront le plus à l'aise. Donc en classe, moi, j'ai volontairement mis mes trois petits parleurs en observation dans des situations d'interaction variées. Déjà en relation duel avec moi-même, qui est censée être la situation la plus confortable pour un petit parleur. En petits groupes, c'était des groupes d'environ 8 élèves, et puis en groupe classe. Et pour réguler les échanges entre les élèves lors de ces situations de groupe, je me suis beaucoup inspirée de la méthode de Pierre Perrose, qui s'appelle le dialogue pédagogique à évaluation différée, et dont les règles conversationnelles m'ont paru vraiment idéales justement pour mes petits parleurs en particulier, entre autres, parce que je les ai un peu adaptées, mais entre autres. Laisser l'espace, enfin laisser le volume de parole aux élèves et donc limiter les interventions de l'enseignant, autoriser les élèves à répéter ce qui a déjà été dit, ce qui est souvent une règle en tant qu'enseignant qu'on a tendance à dire bah, ça a déjà été dit et à interdire ce genre d'échange-là, et là on l'autorise. Et puis d'annoncer l'objectif clair d'une participation minimum par élève. On doit tous essayer de participer au moins une fois, même si c'est pour répéter quelque chose qui a déjà été dit. Une autre règle, évidemment, c'est de rester dans le thème. Donc là, vous pouvez voir, voilà, ça c'est la façon dont je commençais mes séances, en rappelant toujours ces règles-là, encore et encore et encore. Alors là, c'est un exemple de répétition. Ça, c'est vraiment une règle qui m'a énormément servi. Les deux petits parleurs, Sounia et Norman, sont en jaune et on voit qu'ils répètent ce qui a déjà été dit. Donc Sounia répète ce que Gaëtan a dit avant elle et puis elle va même jusqu'à ajouter quelque chose. Donc ça, c'était quand même au bout de plusieurs séances. Et Norman, c'était une des premières fois où vraiment il commençait à prendre la parole en grand groupe, ce qui est quand même une situation très intimidante. Et là aussi, c'était pour de la répétition. Donc on peut raisonnablement supposer que sans ce droit à la répétition, ces élèves-là n'auraient peut-être pas parlé, en tout cas sans doute pas Norman. Alors, s'intéresser aux petits parleurs, ça voulait aussi dire les accepter et vraiment faire en sorte que les élèves sentent cette tolérance à travers mes gestes professionnels. Donc ça revient vraiment à de la bienveillance. Donc moi, j'avais pris le parti avec mes élèves d'accepter toutes les formes de communication qu'ils voulaient bien m'offrir, et je les acceptais vraiment toutes de façon égale, donc la communication verbale comme de la communication non verbale. Donc pour provoquer ça, je leur offrais des situations dans lesquelles justement la communication non verbale pouvait vraiment leur servir pour échanger avec moi. Comme par exemple une petite scène avec des marottes pour rejouer un album ou des petits exercices théâtraux. Et ils ont fini par vraiment se saisir de ces occasions de communiquer non verbalement, de voir que je les acceptais comme autant de tentatives de communiquer avec moi. Et donc ils se savaient acceptés. Et là, par exemple, vous avez l'exemple de ma petite élève allophone Sharifa, donc c'est le CH. Alors, elle prend la marotte, elle la déplace dans le décor, donc en fait, elle reproduit ce qui se passe dans l'album, plutôt que d'avoir de la communication orale, elle le montre. Moi, je lui réponds en continuant tout à fait normalement, comme si elle m'avait parlé. Et puis voilà, il y a deux autres moments où Sharifa prend la marotte et puis la déplace, la pose, etc. Et donc voilà, c'est comme ça que vraiment j'amenais mes petits parleurs à se sentir acceptés de la façon qu'ils choisissaient de communiquer avec moi.